tu peux envoyer le PowerPoint. Vous voyez de quoi je vais vous parler ce matin ? La peur. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible parle souvent de la peur ou de la crainte. Et ça, c'est certainement parce que la peur est un sentiment naturel chez l'homme. Si vous demandez à votre moteur de recherche, et j'ai essayé, toutes les citations ou les proverbes sur la peur, ça fait peur. Hein. Il y en a des centaines. Alors, je ne vais pas vous en citer, il y en a trop. Alors, vous me direz peut-être, même pas peur. C'est vrai ça ? Qui c'est qui n'a pas eu peur ? Pardon. En réalité, la peur est notre compagnon dans bien des situations. Et si l'encouragement de Dieu ne craint point, et si fréquent, c'est que la peur doit l'être aussi. Elle est peut-être un moteur puissant. On dit que la peur donne des ailes. Chez les Vikings, d'après Astérix, elle donne des ailes pour voler. Certains stress, en effet, nous poussent en avant, mais ce n'est pas toujours vrai, car la peur peut aussi nous paralyser. Et le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais c'est de la surmonter, cette peur. Turenne, vous savez qui c'est Turenne ? Oui, il y en a qui savent. C'était un maréchal de Louis XIV. Avant la bataille, il disait « Tu trembles, carcasse. Tu tremblerais bien davantage si tu savais où je vais te mener. » Alors, on peut avoir peur d'un tas de choses. De l'orage, de la roulette du dentiste, des souris, des piqûres, souvent des peurs non justifiées, des peurs irrationnelles. Actuellement, beaucoup de nos concitoyens ont peur de l'avenir, peut-être avec de bonnes raisons. La pollution, le réchauffement climatique, la guerre en Europe. Mais de tout temps, et peut-être, et certainement dans toutes les civilisations, les hommes ont avant tout eu et ont peur de la mort, cette grande inconnue, la reine de l'épouvante. On lit au psaume 57, « Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. » Or, ces derniers temps, les paysans nous ont rappelé que notre monde marche sur la tête. Ils ont certainement, à juste titre, peur pour leur avenir. Mais ont-ils encore peur pour leur éternité ? Dans notre siècle, on n'a plus peur de l'enfer, on n'y croit plus. Et les chrétiens aussi, qui parlent de l'importance de la confiance en Dieu, voient souvent la peur envahir leurs pensées. Dès que survient un problème, on a peur. Mais si notre communion avec le Seigneur ne change pas cette attitude, on peut se poser quelques questions. Alors, d'où vient la peur ? La Bible nous en donne l'origine, et c'est tout au début de l'histoire de l'humanité. En Genèse 3, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu ?» On voit que la peur ici découle de l'insoumission à Dieu. C'est le résultat d'une rupture. Or, chez nos premiers parents, le refus de la crainte de Dieu leur a fait connaître la peur de Dieu. Ils se sont cachés pour ne pas être vus de Dieu. Ils se sont cachés aussi par peur de l'autre, la peur d'être regardés. Ça les a fait confectionner des habits pour se voiler la face et le reste. Le regard de l'autre, des autres, depuis, fait peur et provoque l'hypocrisie. On cache ce que l'on est en réalité. Quelqu'un a dit, c'est souvent la peur d'être mal jugé et non l'amour qui nous rend vertueux. Au moins, il y a un aspect positif. Alors, comme exemple, c'est peut-être que va penser mon voisin si mon jardin n'est pas bien tenu. Je respecte le code de la route parce que j'ai peur du gendarme. Je travaille à l'école ou au boulot pour qu'on ne me fasse pas de reproches. Alors le résultat de tout ça, c'est que l'être humain est seul avec lui-même par peur d'être vu tel qu'il est. Et souvent, en plus, il se fait un peu peur à lui-même. En se coupant de Dieu, l'homme est désarmé. Il s'aperçoit que sa maîtrise est bien fragile, que son courage est solide, tant que tout va bien. Il se rend compte aussi du poids qu'il transporte toute sa vie, de ses échecs, de ses blessures, qui créent en lui des peurs qui le fragilisent. Il y a même de quoi avoir peur de marcher dans la rue le soir, de prendre l'avion, même d'être au volant de sa voiture. On ne se sent en sécurité nulle part. Et ça parce que l'homme est déboussolé. Il a perdu le nord, il ne sait plus le sens de sa vie, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Et puis par rapport à la peur des événements à venir, l'imagination, vous savez la folle du logis là, l'imagination peut faire des ravages et la peur souvent crée ce qu'elle craint. La peur est cette réalité que nous faisons tout pour éviter et qui pourtant se niche si facilement en tout. Elle est inhérente à notre existence. Alors quelques exemples bibliques. D'abord Joseph et ses frères. Vous savez, les frères de Joseph, à cause de la famine, sont contraints d'aller en Égypte pour chercher du blé. Et là, Joseph, devenu premier ministre du Pharaon, les reconnaît et les accuse d'être des espions. Alors leur réaction, on le lit en Genèse, Genèse 42, « Maintenant nous connaissons l'angoisse, nous sommes punis à cause de notre frère que nous avons vendu comme esclave. » C'est la culpabilité de leur aveu même qui est la cause de leur peur. Un autre exemple, c'est le prophète Élie lorsqu'il fuit les menaces de la reine Jézabel. C'est dans 1 Roi 19. Élie, qui vient de tuer les prophètes de Baal, il fuit, il est en pleine déprime. Et Dieu vient le rencontrer dans son désert. Il l'assure de sa présence, de sa tendresse. Mais il ne fait pas que ça. Il lui donne un but de sa vie. Il lui donne des missions envers d'autres. Il le sort de son isolement et de ce qu'il a vécu. Et la suite montre le bien fondé de la thérapie de Dieu. Les hommes vivent souvent une forme d'angoisse, plus ou moins chronique, plus ou moins avouée, et quelquefois, comme pour Élie, des problèmes de santé en sont la conséquence. Et puis plus tard, dans le Nouveau Testament, Pierre, le disciple de Jésus, en Luc 5, on lit « L'épouvante avait saisi Simon-Pierre. » Pourquoi cette épouvante? Quelle était la cause? Jésus vient d'accomplir un miracle avec une pêche extraordinaire. Et cette réussite fait ressortir l'échec de Pierre. Pierre qui avait jeté ses filets toute la nuit et qui n'avait rien pris. Et cela lui fait prendre conscience de son état. Il dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Depuis Adam qui s'est éloigné, qui s'est coupé de Dieu, l'être humain veut s'éloigner de Dieu. Mais Jésus, au lieu d'augmenter ce sentiment de peur, veut le guérir et apporter la solution à ce problème enfoui au plus profond. Il lui dit « Ne crains point. Ne demeure pas dans cette crainte de la punition de Dieu à cause de ta culpabilité. » C'est vraiment la rencontre avec le Seigneur qui fait prendre à Pierre et à nous la conscience de notre état profond, mais aussi qui apporte le remède. Jésus lui ajoute « Désormais, tu seras pécheur d'hommes. » Il lui donne une nouvelle orientation. « Je vais transformer ta vie. Je vais lui donner un vrai sens, un plein épanouissement. » Et comment, un peu comme pour Élie, en se tournant vers les autres. Et puis enfin, un dernier exemple, Paul le grand apôtre. On lit dans Actes 18 qu'il est découragé à Corinthe. Les Juifs faisaient alors de l'opposition en se livrant à des injures. Alors Paul connaît ici une situation de tension qui l'amène à avoir peur, car le Seigneur lui dit alors « Ne crains point, je suis avec toi. » Alors est-il normal d'avoir peur face à l'opposition, à la souffrance, à l'épreuve? En tout cas, Dieu ne lui fait pas le reproche. Il ne fait pas le reproche à Paul d'avoir peur. Il l'encourage à le suivre et lui montre à lui aussi qu'il a un plan pour lui et pour sa vie. « Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Bien plus tard, ce même Paul, vous vous souvenez, il est prisonnier, il est sur un bateau qu'il conduit à Rome. La tempête est telle qu'elle menace le navire. Mais le Seigneur lui dit à nouveau, « Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. » Comment ? Paul a eu de nouveau peur. Oui, Paul a eu peur. Et le Seigneur est encore venu pour l'encourager, lui donner un but, celui de vivre pour son service. Alors ces différents exemples, et il y en a bien d'autres dans la Bible, nous orientent chaque fois vers l'assurance que Dieu est là. La certitude que nous pouvons ne pas sombrer dans l'angoisse avec la perspective d'une vie à son service, tournée vers les autres. Ces éléments se retrouvent chaque fois, même si c'est de façon différente pour chacun. Souvent, Jésus a dit « Ne crains pas, n'aie pas peur ». Le péché, ce n'est pas d'avoir peur. C'est de ne pas regarder à lui, de ne pas croire à sa parole. À Gethsémané, Jésus connaît une angoisse terrible. Face à la souffrance morale, physique, spirituelle, mais il la vit en se tournant vers son Père céleste, dans la prière. Et comme Jésus, nous avons l'assurance de la présence de Dieu pour contrer la peur. Alors, qu'en est-il de nos peurs? Quand Jésus dit « Ne craignez pas », ça souligne le fait qu'il est important d'essayer de maîtriser sa peur, sans se laisser écraser par elle. Et il insiste sur notre responsabilité. Ne craignez pas. Comme si la paix dépendait aussi de nous. Ne craignez pas. Ça veut bien dire que c'est à nous de ne pas craindre, de surmonter nos peurs. Pas tout seul, avec lui. Quand le peuple d'Israël voit le roi de Babylone beaucoup plus puissant que lui, Dieu lui dit, ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Alors, à la peur qu'on peut comprendre face à un ennemi plus puissant que nous, n'ajoutons pas à nos angoisses, à la peur, l'angoisse qui écrase et fait perdre la bataille même avant de l'avoir commencée. Et Dieu ajoute dans ce texte, « Je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. » Or le problème pour Israël, c'est qu'il se tournait vers l'Égypte plutôt que de se tourner vers son Dieu. Alors dans notre combat contre la peur, notre part est liée à notre regard. Regardons à Dieu. Platon faisait une constatation. Il disait « Un enfant est excusable de craindre l'obscurité. Ce qui est tragique, c'est l'homme qui craint la lumière. Et celui qui connaît la lumière par excellence, le Seigneur et ses promesses, et qui ne lui fait pas confiance, en s'abandonnant complètement à lui, vit une situation d'autant plus tragique. » Le Seigneur veut aussi nous apprendre à relativiser les raisons de notre peur en remettant les choses à leur juste valeur. Et cela aussi est de notre ressort. Notre peur pour les choses matérielles peut prendre une place démesurée. Jésus invite ses disciples à relativiser. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Le fait de savoir relativiser permet de ne pas tomber dans une dramatisation qui fait exagérer les faits, craindre plus facilement les gendarmes que Satan, l'ennemi de nos âmes. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps dans la géhenne. Dieu attend que nous nous remettions à lui. Et la prière, c'est la façon de confier nos peurs à Dieu et de nous en décharger. C'est la manière de traverser l'épreuve et non de la supprimer. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors oui, le chrétien peut avoir des tas de problèmes. Il peut être cambriolé, avoir un accident, subir des maladies, être au chômage. Mais au sein de ces tempêtes, on peut entendre le Seigneur dire « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Et malgré tout, connaître la paix. Oui, Dieu désire me délivrer de mes peurs passées, celles qui me traumatisent encore, qui m'empêchent d'appréhender d'une manière juste les épreuves nouvelles. Il veut guérir mes blessures dues à ce qu'on m'a fait subir. Il veut m'aider à canaliser mon imagination qui quelquefois me détruit. Et pour David, ce n'était pas qu'une belle théorie. Il commence le psaume 27 par « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Et au psaume 118, voilà ce qu'il a expérimenté. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ? L'Éternel est mon secours. En même temps, on entend beaucoup en même temps en ce moment, hein. En même temps, il est nécessaire que je m'engage à ne pas provoquer mes futures peurs, en me mettant dans des situations dont je ne ressortirai pas indemne. Nous disons notre désir que Dieu ne nous conduise pas dans la tentation. C'est la prière, le Notre Père. Mais en même temps, nous nous engageons là où nous allons créer nos peurs. Pour nous et pour nos enfants, il est nécessaire d'avoir ce discernement et ce courage pour ne pas nous mettre dans des situations dangereuses pour nos corps et nos âmes, au lieu de crier après coup à Dieu de nous enlever les conséquences. À ce sujet, Pierre conseille, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Voilà, nous sommes appelés à être responsables, et alors Dieu s'engage. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Alors pour terminer, je vais vous laisser quelques textes, trois textes de promesses de Dieu qu'il a laissés pour tous ceux qui lui font confiance. Alors le premier, pardon. Ne crains pas car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je te secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Le deuxième texte, toujours dans Ésaïe, « Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré, et je t'aime. Ne crains rien car je suis avec toi. » Et le dernier, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire, et après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.